Et nous retrouvons maintenant Amusez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur, une émission de l'Académie Clémentine avec Nicole Sabag. Bonjour Nicole.
Bonjour José.
Et vous nous emmenez à la Croisette aujourd'hui.
Oui, je vous emmène sur la Croisette, plus spécialement à la Malmaison. Et j'ai à côté de moi Frédéric Ballester, que nous connaissons bien. Bonjour Frédéric, qui est directeur du Centre d'art de la Malmaison et qui est venu avec Alphonse Alt, qui est l'artiste qui expose actuellement ses altotypes, et on va tout de suite vous dire de quoi il s'agit. À la Malmaison, Alphonse Alt, bonjour.
Bonjour.
D'abord, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, d'être venus jusqu'ici. Donc, vous exposez actuellement à la Malmaison des altotypes. Vous allez nous expliquer un petit peu votre technique tout à fait extraordinaire. D'abord, présentez-vous un petit peu. Vous êtes un bavarois bien français, non? Vous êtes né en Bavière et vous vivez à Marseille.
Oui, je suis toujours bavarois, oui. Ça se quitte pas comme ça.
Hein. Ça s'entend d'ailleurs.
Oui. Par contre, c'est vrai que je suis tombé amoureux d'une Française et depuis, je suis là.
Hein. Voilà, d'une Marseillaise.
Non, c'est une avignonnaise.
Voilà, mais enfin, vous vivez à Marseille, donc à la Belle
de
Mai.
Oui.
Voilà, et vous vivez là depuis longtemps?
Oui, maintenant ça fait 10, en fait en France depuis 24 ans.
Voilà, donc.
Et à Marseille depuis 17 ans maintenant. Ça commence à faire.
Alors, vous êtes un altotypiste, c'est ça?
Oui, en fait, c'est une petite coquetterie de ma part. Je m'appelle Alt, en fait, et donc je voulais signifier par cela toutes les productions qui sortent de mon atelier. Parce que l'atelier, c'est pour moi plus que seulement un lieu, c'est aussi une discipline quotidienne. En fait, je viens le matin, comme d'autres lisent le journal dans leur café, voilà, et je regarde ce que j'ai fait la veille, et je défais ou je continue. Voilà, donc c'est vraiment une discipline quotidienne.
Alors, ces altotypes, plus précisément, c'est quoi? Parce que c'est un curieux mélange ou une addition d'une part d'une photographie et d'autre part d'un travail qui vous est personnel?
Ben oui, c'est-à-dire que comme chacun, il a peut-être un chemin très différent. Moi, j'ai commencé mon approche avec l'art, avec de la gravure et aussi de la peinture. Et c'est plus tard que j'ai commencé à aimer la photographie. Et à un moment donné, j'avais envie de mettre tout ça ensemble. Et ça a donné des altotypes. Mais j'ai mis quelques années quand même à y parvenir. Parce que les chemins ne sont pas toujours aussi droits. Ils vont pas du point A à B par le plus court chemin.
Vous Alors ça se passe comment imaginer. Votre travail? Vous commencez par prendre une photo comme le...
Voilà, donc en fait, au départ, il y a une très bonne photographie, c'est-à-dire que quand je dis très bonne, ça ne veut pas dire que... Enfin, je ne m'en lance pas des fleurs, mais disons que c'est une photographie avec toutes sortes de détails, avec donc un soin et un amour pour la photographie. Et après, j'oublie un peu tout ça. C'est-à-dire que je vais dans mon atelier, je commence à fabriquer des supports sur lesquels j'ai envie de transférer. Et à la Malmaison, il y a quelques exemplaires très rares sur bois, et aussi la plupart c'est des papiers gravures en fait parouflés sur toile.
Alors donc vous prenez la photo, vous l'installez sur un...
En fait, je fabrique tout le support, donc c'est des fois très très long, parce qu'il faut préparer. En fait, c'est un travail qui met beaucoup en appétit et on est sans arrêt. En fait, on n'a pas des choses immédiates, donc il faut savoir attendre. Donc je mets couche par couche, donc de gélatine sur un support, et des fois même je suis obligé de préparer quand il s'agit du bois. Je dois même préparer avant de mettre les couches de gélatine. C'est ce qu'on appelle un gesso, et donc là j'ai parce qu'il y a des réactions chimiques qui peuvent en découler, donc du coup il faut prévoir tout ça. Et puis après, je rends cette couche de gélatine que j'ai appliquée au fil des jours et des jours, sans photosensible, et je joue donc avec la capacité de la gélatine de s'engorger d'eau. Et ça, je détruis photographiquement. Ben là, donc vous voyez, il y a des allers-retours de la photographie à la peinture multiples. Et donc là où il y a de l'eau, le pigment, il va s'agripper. En fait, c'est comme la fresque. En fait, je réinvente la fresque là. Mais c'est pas moi qui invente. Je ne fais que appliquer ce que un certain Alphonse, parce que paraît-il que c'est la condition. Il faut s'appeler Alphonse. Alphonse Poitevin a inventé en 1859 un procédé au charbon, en fait, ce qui est le résino-pigment-type. Et ça, c'est la vraie technique qui m'a servi de talon. mais maintenant, évidemment, j'ai simplifié la technique et je me suis permis de donner mon nom. D'autant plus que je l'ai appliqué pour la première fois sur bois. Ça, personne l'a fait avant moi. Ouais, bon, ça, il a fallu simplement chercher des recettes dans les livres pour savoir comment on fait un gesso. C'est la technique du 14e, 15e siècle. Et après, je fais le reste avec la photographie, c'est-à-dire 19e, 21e siècle. Voilà.
Ça donne un résultat tout à fait extraordinaire. Alors, sur votre site internet, qui est très bien fait, où je suis allée, il y a une petite vidéo qui dure 4 minutes, qui est formidablement intéressante. Et vous commencez cette vidéo, ça m'a beaucoup frappée, et vous dites que votre travail est presque un acte chamanique.
Ah,
alors,
oui.
Ça, c'est pour ça que je voulais vous interroger là-dessus, parce que je trouve que c'est... En quoi vous, c'est chamanique ?
Ah ben, écoutez... Évidemment, quand on est artiste, je crois, il faut avoir la foi. Parce que tout ça, ça paye pas. Donc il faut bien avoir une récompense de quelque chose. Et donc cette quelque chose, c'est cette chose indicible. Et c'est-à-dire que quand je prends mon appareil, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, en fait? C'est la bonne question qu'il faut se poser tout de suite. C'est-à-dire, et je ne sais pas. Mais en même temps, je sais.
Frédéric Gris, on ne l'entend pas. Après ça, il va nous donner ses impressions.
C'est-à-dire que, chamanique, parce qu'il y a un peu de c'est quand pourquoi est-ce que je fais tant de temps et pourquoi je me enquiquine pour faire une œuvre tellement compliquée à faire avec un procédé alors que le numérique nous montre comment on peut gagner du temps. C'est-à-dire que c'est pas mal, mais chez moi ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que tout ce temps que je gagne, comment est-ce que je peux le perdre mieux qu'avec ma technique à moi? En fait, c'est-à-dire que j'aime passer du temps avec ça. Parce que mon intérêt, c'est de faire quelque chose de précieux, de faire quelque chose de rare. Et tout ce que je photographie, j'ai une relation d'amour avec. J'allais me laisser aller à dire des choses assez graves, mais c'est un acte d'amour, en fait, entre la photographie, les gens que je rencontre, les sujets, etc. Mais il y a un petit peu de l'amour dans tout ça au milieu. Et en fait, mon envie, c'est de passer du temps à parler autour de ça et de aussi plus ça dure, mieux c'est. En fait, c'est, vous le savez, c'est comme toujours, quand on a quelque chose qu'on aime, on aimerait bien que ça dure. Et c'est peut-être pour ça que je fais ça.
Et votre exposition qui s'appelle Effondrement des certitudes, il y a presque presque que ça va pas ensemble, l'effondrement des certitudes, c'est quelque chose qui justement ne dure pas. Je pense que peut-être vous voudriez que ça dure. Vos sujets sont mélancoliques, je les ai trouvés graves.
Eh oui, mais la vie n'est pas toujours un Zuckerschlecken, comme on dit chez nous. Alors, pas toujours une mangerie de sucre, quoi.
L'effondrement des certitudes, c'est vous, Frédéric, on vous a pas encore entendu, qui avait trouvé
tout.
Ce titre magnifique.
C'est lui qui a trouvé ce titre. Et c'est la réalité du temps, cette ambiguïté du temps qui surprend en permanence. Je voudrais revenir à la notion de chaman chez lui. Je me demande s'il n'est pas un petit peu chaman. Et j'aime beaucoup, justement, dans son travail, dans sa conception, les parcelles de mystère et puis toute cette révélation qu'il a sur l'image et sur le temps et puis sur les êtres humains et sur l'ensemble des sujets qu'il traite. Là, il y a cette relation chamanique mystérieuse, des rituels. Ces actes sont très ritualisés parce que c'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire du monde. C'est un mystique aussi. J'aime beaucoup son côté mystique parce que il y a aussi toute la croyance qu'il a derrière son âme. Il se rattache très souvent à Dieu et j'aime beaucoup cet amalgame chez lui. Et puis l'effondrement des certitudes, c'est ce qu'on vit au quotidien dans la société qui s'est aggravée depuis quelques années. Et les images qu'il propose, justement, sa technique, son altotype est là pour récupérer cette image et lui donner peut-être l'aspect poétique qu'on va rechercher quand même dans cet acte photographique picturalisé. Hein. Il voit le côté dramatique de cette société et puis il y a cette substance de bien qu'il a envie de faire passer quand même, parce que l'être humain est quand même admirable.
Oui, il ne s'effondre pas, lui.
Oui, non, mais il faut dire aussi que peut-être c'est très bien que certaines certitudes s'effondrent, parce que comme ça,
ça remet en question.
Bien sûr, et puis on peut reconstruire d'autres. Et en fait, c'est ça l'éternel humain. C'est-à-dire qu'il faut chercher des choses qui nous tiennent en fait verticalement, en fait.
Et vous les trouvez, vous, dans votre travail, justement?
Eh bien, écoutez, je les perçois. Je les trouve peut-être pas forcément, mais je les perçois. Et en fait, moi, j'aimerais bien, mais c'est vrai que, oui, on est parsemé d'incertitudes et c'est difficile parce qu'il faut apprendre à vivre avec. Parce qu'en fait, en les apprivoisant, en fait, des fois, on s'y habitue aussi.
Vous, les artistes, vous avez beaucoup de chance, justement, parce que vous trouvez dans ce... Et vous, les... Frédéric, dans votre travail, vous écrivez, vous êtes en contact avec des artistes et vous trouvez justement ce moyen de vous raccrocher à quelque chose, non ? Ou sinon, au moins d'exprimer, de sortir toutes ces questions que vous avez en vous.
Ben, vous savez, quand en fait, c'est très drôle, il y a des tas d'anecdotes que je pourrais vous raconter, mais en fait, quand à un moment donné, j'éclate et il y a quelqu'un dans mon atelier qui me dit quelque chose qui me gêne, et du coup, je lui jette aussi quelque chose à la tête, et puis des fois, ça fait rebondir les gens qui passaient devant, qui ont réagi, et en fait, et toute la conversation qui a si mal commencé, elle finit par être autre chose. En fait, je crois que c'est ça. Et ça devient quelque chose de très positif à la fin. Parce qu'en fait, on n'était pas indifférent, quoi. C'est le pire.
Alors écoutez, je vois que le temps passe et j'ai une proposition à vous faire. Parce qu'en fait, on n'a presque pas parlé de l'exposition. On a eu une conversation qui est allée au-delà, que j'ai trouvé formidable. Je vous en remercie. Alors je vous propose simplement, est-ce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on fait une deuxième émission et on parle carrément de l'exposition, parce que là, on a mis nos auditeurs, je pense, en attente. Et si vous le voulez bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va faire une deuxième émission et on va parler vraiment de vos deux expositions, puisque vous exposez en deux lieux.
C'est comme
d'accord.
Vous voulez.
Oui, absolument. Voilà. En tout cas, merci de vous être un petit peu dévoilé à nos auditeurs et vous revenez la semaine prochaine. Merci beaucoup.